cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Talila.
Bonjour.
Alors vous avez sorti à l'automne dernier un album, je crois que ça s'appelait Yiddish Blues.
Oui.
Et vous êtes actuellement sur la scène du Tambour Royal à Paris, dans le 11e, ce très joli petit théâtre qui est un peu caché comme ça dans les ruelles de Paris.
Il est très caché. Il est à tel point caché qu'on se demande s'il existe, mais c'est magnifique comme endroit. C'est-à-dire que c'est tel que Paris peut nous offrir des trésors. Des trésors qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est un petit théâtre magnifique. Alors évidemment, il y a quelques obstacles avant d'y arriver. Mais ensuite, on est récompensé.
Comme un trésor caché, quoi.
Oui.
Donc l'album s'intitulait Yiddish Blues. Est-ce que vous avez une définition, avant même, j'allais dire, de qu'est-ce que le Yiddish Blues pour vous? Le blues, déjà, est-ce que... Comment c'est... Enfin, c'est vrai que c'est un terme, en général, qu'on associe à un type de musique. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, le blues?
Je crois que ça veut dire exactement ce que ça veut dire pour d'autres, sauf qu'effectivement, on utilise un terme américain, enfin anglo-américain. Ça peut sembler un peu hypocrite peut-être, hein, mais bon, par blues, j'entends chant d'un peuple, hein, tout simplement, expression du tréfonds, si vous voulez, expression de l'âme d'un peuple. Aussitôt, on est obligé d'employer des mots un peu compliqués en français, un peu grandiloquents, alors que blues, bon, bah, ça cause à tout le monde, puisque ça cause anglais. Oui, c'est l'âme d'un peuple. Voilà.
Il y a un côté mélancolique aussi, un peu souvent.
Il y a un côté mélancolique, il y a un côté, disons plus, le côté plainte, effectivement, dans le blues. Mais enfin, dans le blues américain, d'après mes connaissances, on peut dire beaucoup de choses dans le blues. C'est-à-dire que la plainte, elle peut être de tous ordres. Elle peut être sexuelle, elle peut être... je ne sais pas, c'est la plainte de vivre, le mal de vivre, tout simplement. Donc, ça englobe beaucoup d'états d'âme, en fait. Hein. Mais alors, peut-être que c'est une erreur d'avoir appelé ça Yiddish Blues, puisqu'il n'y a pas que de la mélancolie. Parce que le grand cliché, justement, en ce qui concerne la musique yiddish, c'est de penser que c'est une musique extrêmement nostalgique, extrêmement triste, extrêmement douloureuse. Il y a ça, bien sûr, mais il y a le rire et les larmes. Et c'est ce qui fait la richesse d'une culture, évidemment.
Ce que j'allais vous dire, il y a ce côté, effectivement, vous l'avez dit vous-même, ce côté de terme, effectivement, un peu mélancolique. Et quand on écoute votre musique, elle est aussi parfois empreinte de cette mélancolie. Mais effectivement, il y a un côté peut-être plus festif, plus proche peut-être, je sais pas, du cabaret, ou voire même du jazz, parfois, qui sont souvent des musiques qui vont parfois peut-être plus associer, effectivement, à un aspect un peu plus peut-être positif, de partage, de fête, festif, tout simplement.
Oui, oui, c'est une musique de fête, c'est une musique de joie. En fait, moi, j'ai coutume de dire que les chansons yiddish ressemblent à toutes les chansons du monde. C'est-à-dire qu'elles expriment exactement les mêmes choses que toutes les chansons. Donc, ça va de la douleur à la joie extrême et même à la parole bête. Parce qu'il y a, de grands poètes en yiddish, il y a de grandes chansons, comme en français. Mais il y a aussi des chansons qui expriment des choses très simples, banales, prosaïques. Du moment qu'on a la santé, il faut être heureux. Enfin, vous voyez, ce genre-là. Donc, il y a tout cela avec évidemment la composante de l'exil. Tous les peuples qui se sentent exilés de quelque part ou de quelque lieu que ce soit d'ailleurs expriment une sorte de mélancolie, une sorte de nostalgie. Mais la nostalgie, elle touche à tout, absolument tout. Spiel du Fiedel, spiel, spiel für mir. Wie es noch uns fehlt,
C'est-à-dire que cet exil, ce nomadisme presque, il fait que c'est une musique qui finalement s'enrichit année après année ou décennie après décennie.
Mais évidemment, la musique yiddish est justement celle qui mérite peut-être le plus d'être appelée la world music, comme on dit maintenant, toujours en anglais, parce qu'elle emprunte. Elle se balade avec quelques souvenirs, c'est-à-dire quelques mélismes de la synagogue, quelques secondes augmentées, quelques mineurs dans ses gammes, et elle s'adjoint les musiques des terres où elle s'installe. C'est-à-dire qu'il y a un échange, en fait, un échange extrêmement enrichissant entre le pays où on s'installe et ce qu'on amène avec soi. Et donc, c'est une musique c'est une musique de fusion, c'est une musique de mélange. Elle ressemble à de la musique russe, elle ressemble à de la musique polonaise, à de la musique roumaine. Et pour la musique yiddish qui est née aux États-Unis, parce qu'il y a un très très grand répertoire, et celui-là m'intéresse particulièrement d'ailleurs, un très très grand répertoire qui est né avec la forte émigration des Juifs aux États-Unis. Il y a un grand répertoire judéo-américain qui a donné naissance, comme vous le savez, à de très grands standards de jazz.
Et alors donc, dans ce Yiddish Blues, il y a la langue elle-même, le Yiddish. Comment on aborde, quand on s'exprime par le chant comme vous, la musicalité d'une langue? C'est-à-dire que, évidemment, c'est une langue que vous maîtrisez, puisque vous la chantez. Comment ça se passe? Est-ce qu'on chante de la même manière? Est-ce que certaines langues font qu'on chante de telle manière et d'autres langues font qu'on chante d'une autre manière?
Je crois que, comme le russe, comme l'allemand d'ailleurs, et comme l'anglais, le yiddish se prête beaucoup, beaucoup mieux que le français, se prête au chant. C'est une langue extrêmement musicale, qui peut être très ressentie comme très gutturale parfois, très, très violente hein, dans le côté guttural, et très douce aussi. Oui, c'est une langue qui chante, mais c'est surtout peut-être... Pour moi qui suis née à Paris et qui parle le français.
Oui, ce que je veux dire, quand vous rêvez en français, vous rêvez.
Mais oui, je rêve en français. Je suis née dans une famille où on parlait yiddish. Mes parents sont arrivés en France en 1936, mais ils n'ont pas eu vraiment le temps d'apprendre très très bien le français. Je suis née, moi, après la guerre, mais je suis de culture totalement française. Je revendique ma culture française. J'ai fait des études universitaires de français. J'adore la langue française, j'adore la littérature française, et il m'est difficile de chanter en français, même si d'ailleurs dans le spectacle et même dans ce disque il y a une chanson en français. Mais j'exprime peut-être...
C'est intéressant justement, excusez-moi de vous couper, oui. Mais ce côté justement, j'ai du mal à chanter en français, je chante... Quand vous avez commencé justement à chanter, peut-être que c'était seul dans votre chambre, je ne sais pas exactement, quand vous avez... Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes tout de suite senti à l'aise avec cette langue, avec le yiddish? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'adaptation? Vous avez dû la dompter, trouver les... Comment ça s'est déroulé?
Ça s'est déroulé pas si facilement que ça. Hein. Quand j'étais petite, j'aimais chanter. Je suis née avec ça. Je suis née dans une famille où on aime la musique. Mon frère aîné joue beaucoup de piano. C'est un grand mélomane. Moi, j'ai choisi la voix plus légère, la voix de la chanson. Mais il m'accompagnait quand j'étais petite. Je chantais des chansons. Je chantais, je ne sais pas, les succès du moment. Un peu d'Edith Piaf. Ensuite, Brassens. Enfin, pour moi, c'était... J'adorais Barbara, évidemment. La Barbara des débuts. Enfin, de ses débuts, que j'adorais. Anne Sylvestre, enfin, des gens comme ça. Mais j'avais l'impression que c'était pas vraiment moi quand je chantais dans cette langue. Et puis peut-être aussi, je n'ai pas trouvé, n'écrivant pas moi-même à ce moment-là des chansons, j'ai pas trouvé des auteurs. Pour moi, les auteurs, c'était quand même les grands. Hein. C'était Ferré, Barbara, je l'ai cité, Brassens, je l'ai cité. Qu'écrire après ça, enfin, c'est difficile. Bon, moi, je m'y suis pas mise et... Bon, j'ai enregistré un disque en français sur des paroles de Jean-Yves Lullet. Certaines étaient pas mal du tout, mais bon, ça n'a pas été un grand succès. Et je n'arrivais pas à exprimer je ne sais pas ce qu'il y avait au fond de moi. C'est très psychanalytique, hein, toute cette histoire.
Ce que j'ai vous demandé, justement.
Moi, je pense que si je chante en yiddish, alors que mes parents ne me l'ont pas appris. Nos parents ne voulaient pas nous apprendre le yiddish. Ils parlaient, naturellement. On entendait. Et on entendait déformé, comme quand on entend une langue et qu'on ne s'y penche pas et qu'on a même un peu de mépris pour elle et même un peu de honte. Ce que j'exprime dans des textes que j'écris en français, parce que je ne fais pas que chanter dans les spectacles, je raconte des choses aussi sur ma vie. Et la honte, le mépris, enfin, on n'est pas à l'aise hein, quand on est petit, on n'est pas à l'aise avec les différences. Et donc, nous, on répondait toujours en français. Donc, si j'ai chanté ensuite en yiddish, c'est sans doute, hein, c'est une hypothèse, mais il y en a 150... un désir de réparation, quelque chose qui fait que j'ai voulu retrouver des grands-parents que je n'ai pas connus, toute une famille qui a disparu, toute une culture qui a disparu. Et puis j'ai aussi découvert avec le temps que c'était une vraie langue, le yiddish. C'était pas simplement la langue quotidienne, la langue dans laquelle on s'engueule, où on dit va acheter du pain, ou d'ailleurs on mélange le français avec le yiddish, etc. Que c'est une langue de culture, qui a des poètes, qui a des romanciers, enfin des gens extraordinaires. Et que c'est une langue avec une grammaire, avec très rigoureuse. Et donc j'ai réappris en fait le yiddish. Et comme une sorte, oui, je ne sais pas, une sorte de réparation, une sorte de... Je ne sais pas le dire moi-même, hein. Je ne sais le dire que sur la scène, en fait, ou quand j'enregistre. Et c'est vrai que j'exprime sans doute beaucoup plus de choses en chantant yiddish que je n'en exprimerais en français. Irzing, fardir mein shira shirim, mit libeich bat sirim. פרדיר נור נשוממי איך זין פרדיר מיין חלוימס מיין ליבה ויאת חוימס פונדיר נור נחוממי ואין יגיוס פונבנק נודיר גליפ תמיין ונבן Ich halte in ein Denken, als du wirst noch einmal meine sein. Ich sing von Herzen meine Lieder, mein Shira, Shirim wieder, geliebte Fardir, ich sing.
Est-ce que ça veut dire que par rapport à tout ce que vous venez de détailler, c'est quelque chose qui est plus tourné vers le passé que vers l'avenir, d'une certaine manière? Est-ce que vous voyez comme un trait d'union, c'est-à-dire vous avez cité voilà, les origines, la famille, la tradition, etc. Mais vous chantez en 2009. Est-ce que j'imagine qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour qui effectivement le yiddish n'est peut-être pas une langue qu'on parle à la maison, etc. Comment vous vous replacez dans ce contexte-là?
Mais je ne chante pas le yiddish comme on le chantait dans les années 30. D'abord, je ne le prononce pas comme mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, ni même comme mes parents le prononçaient. Parce qu'on fait un travail avec les musiciens, et en particulier avec Teddy Lasry, qui a arrangé toutes les chansons de ce disque. On fait un travail, j'allais dire, de... Comment dire, d'adaptation, mais même pas d'adaptation. On chante, d'interprétation. On chante ces chansons... Et on les joue comme on vit en 2009, avec toutes les influences. On joue avec un percussionniste, ce qui paraît étrange hein, dans la musique yiddish. Pourquoi un percussionniste? On n'a pas de violon, on n'a pas d'accordéon, enfin, sauf dans ce CD, en fait, Teddy Lasry joue de tous les instruments, il joue de la clarinette, il joue de l'accordéon. Nous n'avons pas de violon. Les arrangements ne sont pas du tout habituels. C'est-à-dire que je chante un grand classique qui s'appelle « Aïdiche Mame », que vous connaissez peut-être, qui est vraiment le saucisson cachère, évidemment, qu'on connaît depuis... C'est une chanson qui a été créée magnifiquement hein, par Sophie Tucker aux États-Unis dans les années 30. qui a fait le tour du monde, qui est traduite dans toutes les langues, en anglais, en arabe, en espagnol, enfin tout. Et même Charles Aznavour a racheté les droits de cette chanson pour la chanter en français. Enfin bon. Mais là, par exemple, Teddy a fait un arrangement tout à fait remarquable et tout à fait étonnant. Il y a des rythmes latinos dans certaines chansons que je chante. Voilà, on ne s'y attend pas. Et c'est ce qui nous plaît. C'est ce qu'on fait du yiddish à notre façon. Et surtout pas comme on s'y attendrait. C'est-à-dire que ça ne sonne pas yiddish forcément. Il n'y a pas tous les clichés, tous les ingrédients qui font que... Alors, ça, peut-être que ça nous éloigne de certaines personnes, parce que les gens adorent ce qu'ils connaissent déjà. Hein. C'est les surréalistes qui disaient ça. Les gens n'aiment que ce qu'ils connaissent déjà. Oui, ça les rassure. Mais il n'empêche qu'en spectacle, quand on a la chance d'avoir le public, et ça nous arrive, bien sûr, ils ne sont pas du tout perdus, au contraire... Peu de fois, on nous a dit, mais ça ne ressemble pas à ce que j'ai déjà entendu, et tant mieux. Voilà. On ne s'y reconnaît pas, tant mieux.
Est-ce qu'il y a aussi une manière, quand on parle de musique folklorique, d'avoir toujours des clichés liés à ça? Est-ce qu'il y a aussi, par rapport à ce que vous avez évoqué, sur les autres rythmes, les autres sons qui viennent enrichir, vous avez parlé de percussions, etc., aussi une manière, consciente ou inconsciente, justement, de créer une musique qui soit aussi un peu dénuée de ces clichés qui peuvent être liés à la musique folklorique en général?
Mmh. Bah déjà, le terme folklorique, voilà. Vous savez combien c'est péjoratif.
Les casseroles un peu, oui.
C'est terrible d'être perçu comme, je ne sais pas, quelqu'un qui ferait de la bourrée au Vergnat, et en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec la musique bretonne, elle est aussi sortie du cliché, peut-être que la bourrée au Vergnat peut aussi en sortir, je ne sais pas. Oui, c'est très péjoratif. Bon, nous, on essaye, et ça, on essaye vraiment depuis, je l'essaye depuis longtemps, depuis toujours, peut-être pas au début, mais de faire sortir cette musique, effectivement, du cliché perpétuel, du violon qui pleure. Mais c'est très difficile d'aller contre les clichés. Ben, vous le savez, hein, combien c'est difficile d'aller contre les clichés. Mais bon, on y arrive quand même. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et moi, la mienne, celle des musiciens, c'est de... Enfin, l'authenticité, c'est d'aimer d'aimer ce qu'on fait et d'être pleinement dans ce qu'on fait. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on est authentique. Voilà, on est en plein dedans.
Comment se fait le travail? Bon, il y a la scène, là, comme en ce moment, mais il y a aussi le studio avec... comment ça se passe quand vous voulez préparer un disque, les chansons? Est-ce que vous avez déjà tout en tête? Comment ça se passe? Est-ce que pendant l'enregistrement, finalement, les choses évoluent? Est-ce qu'il y a pas, il y a des recettes, il n'y en a pas trop, ça dépend des albums peut-être?
Oui, ça dépend des albums, bien sûr. Ce dernier album, en fait, c'est du luxe. C'est très drôle de dire ça à notre époque. C'est du luxe parce que Teddy Lasry donc, est musicien, compositeur. Il écrit depuis fort longtemps ce qu'on appelle de la musique d'illustration. Et donc, il a un studio personnel chez lui. Donc, nous avons tout le temps.
Il n'y a pas l'horloge et le compteur.
Non, il n'y a pas de compteur. Malheureusement, il y a aussi quelques inconvénients. Nous n'avons pas non plus de producteur. Nous sommes nos propres producteurs. Mais puisque nous sommes nos propres producteurs, nous avons le temps. Donc, moi, mes choix de chansons, c'est un peu comme les choix, ouais, les choix amoureux, les choix amicaux. On tombe amoureux d'une chanson. La mélodie me prend, je sens qu'on peut en faire quelque chose. Je peux me tromper aussi, parce que vous savez qu'on se trompe aussi sur les choix amoureux et amicaux. On peut se tromper. Et puis le musicien arrangeur, donc là c'était dit, peut aussi buter. Par exemple, la chanson Yiddish et Mamel, là, la fameuse chanson cliché, enfin, qui symbole de tous les clichés yiddish, il a mis du temps quand même à trouver quelque chose qui sortait cette chanson de ses habitudes. Mais il a trouvé, puisqu'il a le temps, puisqu'il cherche, puisque voilà, puisque puis quelquefois ça vient tout seul. Et puis il y a des chansons qui, oui, qui s'offrent plus rapidement à l'arrangement. Voilà. Mais le travail d'arrangement, donc c'est pas le mien. Je donne mon avis évidemment, si ça me plaît, si ça me plaît pas, si je. Mais le travail d'arrangement, c'est le et les musiciens qui viennent y mettre aussi leur grain de sel.
In the Bronx of New York City lives a girl who's very pretty. Lena is her name. Such a lovely girl is Lena. How she plays a concertina really is a shame. She is a swell musician. She has a good position to go across the sea and entertain. And now they say that Lena is down to Palestina and things are never going to be the same. They say that Lena is the queen of Palestina just because she plays a concertina. She plays it day and night. She plays with all her might. She never gets it right. But how they love her, want my rubber. I heard her play once or twice. Oh, murder! But she was nice. They say that she was fat, but she got Lena playing on her concertina. Way down Palestina, way.
On promène son album comme ça après sur scène. C'est une autre aventure, j'imagine. Déjà, on a le public face à soi. Et une manière aussi de faire vivre les chansons différemment.
Ouais, la scène, c'est vraiment autre chose. Et alors, une fois qu'on a sorti ce disque, une fois qu'il a existé, nous avons fait le spectacle, My Yiddish Blues, et on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui aurait été formidable, c'est de l'enregistrer sur scène, évidemment. Alors, il y aurait eu moins de musiciens, puisqu'il y a un trio, là, piano, contrebasse, percussion. Et dans ce CD, il y a bien d'autres instruments. Mais il y a ce côté vivant, hein, bien sûr, qu'on retrouve sur scène, cet échange, ce plaisir à chanter, qui ne peut exister que sur scène. Un disque, c'est toujours un tout petit peu plus froid, même s'il est très réussi. Hein. Y a une certaine froideur qui n'existe plus du tout sur scène. Et il y a cette particularité dans nos spectacles, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que je parle en français, je raconte des choses, et on se rend compte que le fait de raconter en français des choses de ma vie, en fait, enfant d'émigrés juifs polonais, ben ça touche énormément de monde, même si ce ne sont pas des juifs, même si ce sont des juifs qui viennent d'ailleurs. Et ça fait vivre les chansons d'une autre façon. Enfin, il y a une sorte d'interactivité entre les textes et les chansons. Voilà, qui les fait vivre de façon tout à fait originale.
Vous parlez dans la manière dont vous pouvez justement toucher des gens, même qui ne vivent pas les mêmes choses que vous. Comment vous êtes par rapport aux musiques des autres ? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous écoutez beaucoup de musique ? Est-ce que vous allez beaucoup au concert ? Est-ce que vous achetez beaucoup de disques ? Comment vous, pour utiliser un mot assez laid, comment vous consommez ? Est-ce que vous consommez beaucoup de musique ? Est-ce que vous...
Mais j'en consomme très très mal parce que je ne vais pas beaucoup au concert. Je sors peu, particulièrement quand je travaille beaucoup. Mais j'adore écouter certaines choses. J'adore le jazz, hein, quand même. J'adore les chanteurs de jazz. Voilà, j'ai des idoles.
Qui, par exemple,
comme qui, c'est vraiment pas original. Hein. Mon idole, c'est Ella Fitzgerald. En général, on dit que c'est Billie Holiday. Hein. Alors, mais moi, en fin de compte, c'est Ella que j'ai en CD de toute petite à plus âgée. Parce que quand elle était très jeune, elle avait une voix absolument extraordinaire, une petite voix comme, enfin, merveilleuse quoi, d'enfant, une voix d'enfant. Et vraiment, c'est mon idole. Bon, alors j'écoute de la musique classique, j'adore le fado, mais là, ça fait assez longtemps que je n'en ai pas Écoutez, j'adore la musique italienne. Moi, j'ai des goûts éclairés. Et j'adore les chansons.
Vous avez des phases, comme tout le monde, tout à coup.
Oui, j'ai des phases, mais j'achète peu, c'est vrai. J'adore la musique roumaine. Il y a des gens extraordinaires, des chanteuses roumaines absolument extraordinaires. Qu'est-ce que j'adore encore? Je ne sais pas si je... Alors, je ne connais pas bien les nouveaux chanteurs de variété. Je connais un peu parce que j'ai une fille donc dans la trentaine et que bon par exemple son meilleur copain c'est Mathieu Bogarts donc je connais Mathieu Bogarts que j'aime bien d'ailleurs j'aime bien voilà elle a d'autres copains il y en a un qui s'appelle Sébastien Martel alors lui je le connais bien j'ai même enregistré avec lui et il adore avec son frère Nicolas. Ils adorent nos spectacles. D'ailleurs, ils sont venus et ils ont dit cette chose merveilleuse, c'est que s'ils ont commencé à chanter, ils ont un trio, ils chantent en espagnol, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Las Ondas Marteles. et bien, c'est grâce à nos spectacles, en fait, qui se sont un peu lancés là-dedans. Voilà, j'étais très fière.
J'imagine.
Ça fait toujours plaisir. Ouais. Voilà, j'aime des choses vraiment très, très, très différentes. Mais ma grande préférée... Mais j'aime Brassens, je l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Brassens, par exemple, je peux écouter... je peux écouter toujours. Je ne suis jamais... Ça ne me lasse jamais. Alors que Barbara, que j'ai adorée, vraiment adorée, que j'ai rencontrée aussi... J'aime pas les dernières choses, par exemple. Non pas parce qu'elle a un problème vocal, et moi, ça me fait mal, en plus, quand je l'entends chanter. Mais je trouvais que c'était grandiloquent, après. Il y avait quelque chose que je n'aimais pas. Alors, je sais que ça va... C'est terrible de dire ça, parce qu'il y a des sectes. Enfin,
c'est vrai qu'elle a un côté un peu intouchable. C'est que...
Je comprends. J'adore, j'admire. Mais j'ai tellement adoré les premières chansons. Je n'écoutais que ça, vraiment. Mais Brassens, jamais, 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 je n'ai été déçue. Dès qu'il y a une chanson de Brassens à la radio, je l'écoute avec un tel plaisir. Je trouve ça extraordinaire, indépassable. Voilà.
Wenn du sollst ein schwarz wie a tute, wenn du hast Augen wie bei a kute, wenn du hingehst zu bislich, hast du krimme fieslich, sag ich, das art mich nicht. Und wenn du hast ein Marischen Schmeichu, und wenn du hast ein Weißussi Jussechu, wenn du bist Wilwindianer, a viele Galizianer, sag ich, das art mich nicht. Bei mir bist du schön, bei mir hast du Heim, bei mir bist du ein Räuber der Welt. Bei mir bist du Gib, bei mir hast du ihn, bei mir bist du teierer von Geld. Viel schöne Englisch hab geworden an mich und von sie alle euch geglieben hab ich nur dir. Bei mir bist du schön, bei mir hast du Recht, bei mir bist du ein Räuber der Welt.
Comment vous êtes par rapport à vos créations? Est-ce que vous êtes très productif? Vous avez des phases? Est-ce que vous avez tout le temps des idées? Vous avez tout le temps des idées de chansons ou tout à coup, vous avez à avoir des périodes, comme tout le monde, de pages blanches ou de... Comment ça se passe?
Non, j'ai beaucoup de périodes pages blanches. Je suis très paresseuse. Et donc, pas du tout quand il faut travailler. Mais je me donne le temps. Et puis, tout dépend aussi des sollicitations. Il faut bien le dire. Quand on n'a pas de projet, quand on ne nous demande rien, on est un peu sec, on est un peu triste, on est un peu mélancolique. Et puis, je suis plus toute jeune, alors... Mais voilà, j'adore avoir des projets. Et quand il y a des projets, on avance, voilà. Là je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je travaille avec... je reviens de Toulouse, où j'ai fait un pochette surprise avec Jean-François Zigel. Ça, c'est... ça a été extraordinaire. Et ça, j'adore, parce que c'est totalement différent de ce que je fais avec le trio, la série. C'est lyrique, classique, mais j'y mets mes textes aussi. Et là, j'ai vu que ça avait aussi un impact sur un... Et Dieu sait s'il a du public, hein, Jean-François. Ouais, c'est une star. Hein. On a fait 3 séances, là, mardi, à Toulouse. C'était extraordinaire. Et donc, j'espère que j'aurai encore d'autres... D'ailleurs, j'en ai une bientôt, là aussi, à la mairie du 20e, avec lui. Et qu'on on fera encore ça, parce qu'il se passe quelque chose, oui. Vraiment dans une toute autre direction musicale, puisqu'il n'y a que lui au piano, dans un lyrisme total. Je suis une chanteuse presque classique. Pas vraiment, parce que je ne suis pas une vraie chanteuse classique, mais d'abord je chante plus haut avec lui, et si, c'est presque de l'opéra. Voilà.
Est-ce qu'il y a une rudesse aussi, parfois, justement, ce que vous avez évoqué avant, ce côté... c'est la musique, c'est de l'art, mais c'est de l'industrie aussi. C'est-à-dire, c'est une industrie, c'est des disques, des distributions, des concerts, c'est la même chose, etc. Donc quelque chose de l'art, donc quelque chose de très personnel, surtout par rapport à tout ce que vous avez décrit. Vous parlez même de côté un peu presque psychanalytique parfois dans votre art, et parfois effectivement de se retrouver avec une dureté de parce qu'il faut, voilà, vous dites, si on n'est pas sollicité, les projets viennent moins facilement. Comment on gère justement ce sort de tourbillon avec des hauts et des bas?
On se débrouille, on fait comme on peut. Moi je ne débute pas, je suis donc habituée aux hauts et aux bas, mais on gère les hauts et on gère les bas. On fait, voilà, on se débrouille, on essaye d'être fort, quoi. Il faut être fort, hein, dans ce boulot. Il faut avoir de la résistance, il faut résister au choc, il faut résister à la fois aux salles remplies et aux salles non remplies. Il faut résister à tout, il faut résister au mépris, il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et comme on n'est pas justement dans une... on n'est pas dans la mode, on est hors de la mode. J'ai l'habitude de citer cette publicité pour les Volkswagen. Enfin, c'est une ancienne publicité. Toujours à la mode... car jamais à la mode. Me sens un peu Volkswagen. On a une certaine chance, en fait, quand on fait du yiddish, comme on le fait, c'est que nos CD, quand on veut bien nous les distribuer, mais ils durent. Ils durent, mais des années et des années. Moi, je suis poursuivie par des disques dont j'aimerais mieux qu'ils disparaissent, mais ils sont toujours là et ils sont toujours distribués. Et ça, c'est incroyable quand même. C'est quand même une certaine chance. Alors que maintenant, vous savez très bien qu'un CD, si on ne le réclame plus à la Fnac ou ailleurs, je dis la Fnac, je peux parler d'ailleurs, hein, ça y est, il n'existe plus. Ils n'existent plus. Alors que les nôtres, ils vivent longtemps. Parce qu'ils ne sont pas dans cette espèce de vague, de superficialité. Voilà. Et ils nous survivront en plus, je pense. Moi, j'écoute des choses très anciennes. Et je me rends compte par le public qui vient nous voir. Par exemple, moi, j'ai enregistré un disque de berceuse. C'était chez Chant du Monde. C'était en 81. Un disque collectif, hein, avec Colette Mani, Marina Vladi, enfin bon, ça s'appelait Berceuse du Monde. C'est toujours distribué, hein. C'est ce qui me rapporte des royalties. Et je rencontre des jeunes gens qui me disent ce disque, il m'a bercé quand j'étais bébé. Mais c'est extraordinaire quand même, ça fait plaisir. Voilà, mais il faut se battre, voilà, c'est dur. Mais ceci dit, c'est dur même pour tout le monde, même pour les stars du showbiz. Ils font semblant que tout va bien, mais on le sait très bien que c'est difficile, puisque, vous le savez encore mieux que moi, on essaye que cette industrie du disque ne meure pas. Il ne faut pas que ça meure. Un CD, c'est très bien, Internet, c'est très bien, c'est formidable, téléchargement, c'est formidable. Mais l'objet aussi, c'est pas mal. Vous êtes d'accord?
Oui, je pense qu'on vit dans une période de transition, on va dire.
Oui, voilà.
Donc, en tout cas, la musique, elle existe bien. Donc, je rappelle qu'on peut la... l'entendre avec l'objet, comme vous avez dit, donc sur cet album Yiddish Blues, mais également on peut aussi l'entendre et la voir donc sur la scène du Tambour Royal. Merci Talila.
Merci à vous. Merci.
Eine Mann die ganze Welt, einer Mann das ganze Glück hängt nur ob in Geld. Sollen alle suchen, sollen alle kriechen, nur ich trag bei mir. Ich darf das auf Kapores, weil das Glück steht bei mein Tier. Ein bisschen Summe, ein bisschen Regen, ruhig auf dem Kopf zu legen, hab ich gesund, kennen Glickler sein.
Cobas.com Rencontre par Marc Zisman.